libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc vous pouvez vous rendre sur le site de la radio causecommune.fm, cliquer sur chat et rejoindre le salon, éventuellement échanger avec nous ou nous poser des questions. Nous sommes mardi 26 mars 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, la 18e de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'April est april.org et vous y retrouvez déjà une page avec les références que l'on va citer dans l'émission et la page sera mise à jour évidemment après l'émission en fonction des références que l'on citera. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, voici le programme de cette émission. Nous allons commencer par un moment qui ne sera pas un moment de grande joie car nous allons faire un point sur la désormais célèbre directive droit d'auteur qui vient d'être adoptée au Parlement européen. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les civic tech et le logiciel libre avec nos invités Caroline Corbal et Emmanuel Ravière que je présenterai tout à l'heure. Et en fin d'émission, nous aurons la troisième chronique de Vincent Calame intitulée « Jouons collectif ». Et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Bonjour Patrick. Alors Patrick dit bonjour sans avoir allumé son micro. Donc tout de suite, place au premier sujet. Donc mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques à l'April. Alors Étienne, on aurait pu fêter quelque chose aujourd'hui, mais plutôt c'est une mauvaise nouvelle qui vient d'arriver au Parlement européen il y a quelques minutes, donc sur la désormais directive droit d'auteur.
Oui, tout à fait. Bon, alors on aurait pu espérer effectivement un résultat plus positif, hein, notamment en vue de l'incroyable mobilisation qui s'est construite ces derniers jours, ces dernières semaines. Malheureusement, voilà, bon, ben, c'est un peu la douche froide. Bon, la directive a été approuvée. Malheureusement, sur les mêmes prétextes depuis le début, c'est qu'on a donc eu avant le vote, c'est ce qu'on appelle les explications de vote, donc des débats. Chaque différentes positions ont été exprimées et ça a peu évolué depuis le début, c'est-à-dire que les pro-article 13 avaient finalement s'appuyé sur trois jambes, hein, c'est-à-dire prendre des postures de défense de la liberté, de défense des auteurs et autrices. Parce qu'après tout, on peut se retrouver là-dessus, bien sûr, de décrédibiliser la mobilisation, à la fois en disant qu'elle est manipulée par Google, par les grandes plateformes. On avait aussi le rapporteur accusé la jeunesse, et donc faciliter, bien sûr, le fait qu'elle soit manipulée. Et puis, toujours en niant, et ça paraît assez incroyable qu'on en soit encore là, mais toujours en niant la réalité du filtrage qui serait imposé par ce texte, alors que c'est à peu près évident pour toute personne qui a lu le texte en réalité. Donc texte
parce qu'effectivement,
adopté.
L'article 13, alors qui est maintenant officiellement l'article 17, parce qu'il y a des manipulations, alors certains pourront penser que c'est le processus normal démocratique, le changement d'article quelques jours avant, mais en fait, c'est souvent aussi une façon de détourner l'attention de la mobilisation. Donc le désormais article 17, qui était anciennement l'article 13, porte sur le filtrage automatisé, l'institutionnalisation du filtrage automatisé sur les plateformes.
Voilà, en fait, alors il le dit effectivement, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais on voit bien que c'est la seule manière pour les plateformes de répondre aux obligations qui leur sont faites, puisque le texte renforce leurs responsabilités sur les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs et utilisatrices. Et donc, elles sont tenues, de fait, de mettre en place un filtrage automatisé.
Alors, côté logiciel, on a déjà consacré plusieurs émissions au sujet, donc on invite les personnes qui nous écoutent à se connecter sur le site de l'April donc, et d'aller sur la partie consacrée à l'émission pour regarder les archives, déjà, ne serait-ce que la semaine dernière. On a aussi consacré un long sujet sur, justement, l'impact de l'article 13, on va dire, sur Internet. Également, l'exception pour les forges logiciels libres. Donc, peut-être que tu peux faire un petit rappel sur cette exception qui est quand même présente, même si ça ne remet pas en cause le danger de cette directive.
Tout à fait. C'est d'ailleurs comme ça que l'April a commencé à s'engager sur ce texte. Voilà, il y a au moins un an et demi. Parmi les plateformes, puisque toutes les plateformes de partage de contenu soumis aux droits d'auteur sont concernées, donc de fait, c'était le cas au début des plateformes de développement et de partage de logiciels libres, qu'on appelle aussi des forges logicielles. Donc on a milité à l'April avec d'autres structures pour obtenir une exception alors qui a évolué. Hein. Au début, elle était réservée à des plateformes à but non lucratif. Bon, il y a eu différentes évolutions jusqu'à atteindre une définition qui nous paraît exclure à peu près correctement même les plateformes de développement et de partage de logiciels libres. Notons aussi Et alors, c'est un mini lot de consolation, mais c'est toujours, prenons ce qui est positif aussi, c'est que, alors, en texte anglais, il y a effectivement c'est les plateformes open source qui sont exclues, et la traduction française, ils ont traduit cela par développement et partage de logiciels libres, qui est donc à l'article 2, 2.6 dans les définitions, en fait, dans les définitions du texte.
Et cette exception est valable pour les plateformes à but non lucratif ou à but lucratif. C'était un des enjeux de la mobilisation
Tout à
des
fait.
derniers mois, parce que le Conseil de l'Union européenne, donc le représentant des États, avait une position un petit peu différente de celle du Parlement européen. Mais on insiste encore une fois que, contrairement peut-être à d'autres structures du logiciel libre qui ont pris position aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette exception ne remet pas en cause le danger de cette directive et qu'en aucun cas nous n'acceptons comme principe le filtrage automatisé sur les plateformes. Et on peut même rajouter que, ok, les forges logiciels libres sont exemptées avec cette exception. Wikipédia a aussi une exception, mais qui est limitée aussi par effet de bord par rapport aux autres articles. Mais rappelons que dans le domaine du logiciel libre, quand on a consacré nos émissions aux plateformes, par exemple, de partage de vidéos comme Peertube, aux services décentralisés de microblogging comme par exemple Mastodon, donc qui pour les personnes qui connaissent Twitter, ça permet d'échanger des messages courts mais de façon décentralisée. Aujourd'hui, il y a un grand doute et un grand danger sur ces plateformes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques jours, on a mis le site de l'April et le site de notre chaton, c'est-à-dire chapril.org, sur lequel vous avez des services, par exemple, de partage, de création de rendez-vous, de partage d'informations de façon confidentielle. On avait mis un bandeau noir en disant que le site fermait parce que, avec cette nouvelle directive, ben, il y a un vrai danger sur ces plateformes-là, donc au-delà de la partie forge logicielle.
Exactement, je pense que tu l'as parfaitement résumé.
D'accord.
On défend le logiciel libre, on ne défend pas que les logiciels, on défend une certaine vision de l'informatique au service de tous et de toutes.
Alors, est-ce que le vote a été serré? Parce que...
Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, parce que la procédure d'adoption des directives est assez particulière. Alors, de toute façon, tout le droit européen et toutes les procédures européennes sont difficilement abordables lorsqu'on n'a pas l'habitude. Alors, la procédure est comme suit, c'est-à-dire qu'avant de voter directement le texte, il y a différentes étapes à passer. Et notamment pour ce vote final, avant de pouvoir éventuellement proposer des amendements, comme un amendement de suppression pour l'article 13, amendement de suppression que nous défendions, ainsi qu'un amendement que nous défendions, il faut que les parlementaires valident, votent le principe d'amender le texte, c'est-à-dire qu'ils votent pour ensuite pouvoir proposer des modifications. À ce premier niveau de vote, le fait de modifier le texte a été rejeté. Alors là, ça a été effectivement très serré. Il y a 317 parlementaires contre 312, donc 5 votes différence. Donc 317 parlementaires qui ont jugé que malgré la mobilisation citoyenne extrêmement importante, rappelons par exemple qu'il y a eu, je crois, 200 000, j'ai vu ce chiffre, personnes mobilisées dans les rues au niveau européen, qui a eu une pétition à 5 millions de signataires, qu'il y a eu des tensions très fortes, donc on voit qu'il y a un débat très fort sur ce texte, et malgré tout cela, 317 parlementaires ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de voter des amendements pour modifier ce texte. Ensuite, donc, il n'y a pas de modification, donc c'est le texte issu des négociations interinstitutionnelles, du trilogue qu'on a nombreuses fois évoqué, donc qui était finalement juste simplement l'étape précédente. C'est ce texte qui a été mis au vote dans son intégralité, donc avec l'article 13 tel qu'il était rédigé, avec cette obligation de fait de mettre en place des filtres automatisés. C'est ce texte qui a été soumis au vote, et celui-ci a été voté à 348 voix pour et 274 voix contre. Alors, a priori, il y aura ce qu'on appelle un roll call, en gros, une liste des parlementaires et quels ont été leurs votes. Et donc, on pourra savoir qui a jugé pertinent, parmi ces parlementaires, de confier finalement l'application du droit d'auteur à des systèmes automatisés gérés par des entités de droit privé. Donc, cette liste sera certainement intéressante en mai, lors des élections européennes, par exemple.
Alors, le 26 mai 2019, où il y a des élections européennes, donc pour les personnes qui votent encore, il y en a. Ça peut être effectivement un argument pour choisir telle ou telle personne. Alors malheureusement, bon, on n'a pas le détail encore de ce vote nominatif, mais on peut supposer, vu le passé sur les votes précédents, que le parti française a majoritairement voté en faveur de la directive, hein, avec à sa tête Jean-Marie Cavada, hein, qui était encore ce matin sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, c'est-à-dire France Inter, pour raconter à peu près n'importe quoi. Il faut quand même être assez clair. Donc côté français, les parlementaires européens français ont majoritairement voté contre pour la directive, avec le soutien évidemment du gouvernement français. Alors je dis ça aussi, pas simplement par rapport aux élections du 26 mai, mais aussi par rapport à l'étape d'après. Parce que l'étape d'après, tu vas nous l'expliquer rapidement, c'est la transposition dans le droit national.
Voilà, donc ça, c'est l'étape suivante dans une directive, qu'une directive ne s'applique pas directement dans les droits nationaux. Les textes sont adaptés, effectivement. Enfin, des lois sont passées, en fait, presque comme une loi normale, si ce n'est que la directive, en fait, va poser le cadre. Donc là, il faudra aussi qu'on étudie, finalement, les marges de manœuvre possibles pour atténuer autant que possible les effets liberticides de ce texte. Mais effectivement, ça va arriver à l'Assemblée nationale, a priori, je pense dans un temps relativement court. On va voir, hein, ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. On sait que ça va être un combat difficile, puisqu'il y a déjà pas mal de députés, notamment de la majorité, qui ont pris des positions assez claires sur leur intention concernant cet article et sur l'institutionnalisation des filtrages automatisés. Donc ça, ça va être effectivement une étape importante. Et puis parallèlement, et le sujet est directement connexe, c'est une révision d'une autre directive qui est souvent annoncée et qu'on a déjà évoquée notamment, puisqu'elle touche à la responsabilité justement des intermédiaires techniques, qui est la directive e-commerce de 2000. Et là aussi, il va falloir qu'on soit vigilant parce que, en fait, pour que l'article 13 puisse produire les effets qui sont attendus par ses défenseurs, il faut qu'ils agissent sur cette directive e-commerce pour affaiblir encore finalement le régime des intermédiaires techniques et les rendre toujours plus responsables de ce qui passe par leur tuyau. Donc en fait, c'est aussi une remise en cause de la neutralité du net. Bon, ça après, c'est encore un débat qu'on pourra pousser par la suite.
Oui, comme tu dis, c'est la prochaine étape, on va dire, au niveau européen, c'est la révision de la directive e-commerce. Donc ce sera évidemment la prochaine mandature européenne donc, qui commencera à partir de la fin mai, et beaucoup d'acteurs vont sans doute se mobiliser pour effectivement ce sujet qui est essentiel, qui est le statut juridique des différentes plateformes hébergeurs et peut-être la création de nouveaux statuts. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux logiciels libres, nos plateformes d'hébergement de vidéos ou autres services peuvent être directement concernés à terme et mettre en danger des choses qui nous permettent en fait de partager librement et en se basant, on le rappelle encore une fois, sur le droit d'auteur, hein, parce que les licences libres se basent sur le droit d'auteur. Hein, donc voilà. Donc dans la journée, il devrait y avoir, enfin dans la soirée, le communiqué de presse de l'April, bon, qui va reprendre ce que tu viens de dire, Étienne. Je vous encourage à lire dès à présent les articles, notamment de Marc Heuret sur Next Impact, qui est en accès libre. Également les articles de Julia Reda, on va citer Julia Reda, du groupe des Verts européens, qui a mené une bataille importante justement contre cet article 13 et puis aussi l'article 11 sur les droits voisins pour la presse, qui a fait un énorme travail pédagogique, notamment quelques heures avant le vote, pour expliquer ce qu'allait se passer aujourd'hui en termes de vote, parce que ce n'était pas forcément facile à suivre. Donc voilà, je vous encourage à lire ces articles. Et évidemment, de toute façon, il va y avoir encore pas mal d'analyses qui vont être publiées. Et puis il y a la transposition qui va arriver. Et là, on va se rendre compte que peut-être que finalement, les grands perdants, ce n'est pas ceux qu'on croit. Et que les industries culturelles seront peut-être tirer une balle dans le pied ou dans la tempe. Étienne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Moi, je pense qu'on a fait un bon tour de la question, mais en tout cas, voilà, c'est un coup dur, mais on faut pas se laisser abattre. Il reste des combats à mener et on les mènera tant qu'il y aura besoin de le faire.
Exactement, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, soit en appelant des parlementaires européens, soit en relayant les informations, soit les membres de l'April lors de l'AG avec la fameuse petite photo qu'on a faite. Et j'en profite aussi pour chaleureusement féliciter Étienne pour son travail sur ce dossier au niveau de l'April. Ça a été la fer de lance sur ce dossier. Donc voilà, même on ne maîtrise pas le vote des parlementaires et quelque part, effectivement, c'est leur responsabilité de ce vote. Et peut-être que certains seront jugés le 26 mai 2019 lors des élections. Alors, nous allons faire une pause musicale. Avant la pause musicale, on me signale sur le salon dont je parlais tout à l'heure que Free Software Foundation Europe, la Fondation pour le logiciel libre Europe, a envoyé un communiqué. Alors effectivement, il a envoyé un communiqué pour quelque part encourager la Commission à développer et à promouvoir des outils de filtrage en logiciel libre. Alors c'est vrai que cette communiqué nous pose un sérieux problème. D'ailleurs, Étienne a fait tout à l'heure un petit tweet pour les interpeller. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on ne comprend absolument pas du tout cette communication. Voilà, donc c'était cette réponse que je faisais. Et je précise que ça n'engage pas du tout la FSF américaine qui, je pense, n'est pas du tout sur ce genre de position. Mais après tout, Quant a pris il y a quelques jours une position aussi en faveur de la directive. Peut-être est-ce lié au fait qu'ils aient 20% de financement de Springer, Axel Springer. donc un média de la presse, et peut-être que 28% de la Caisse des dépôts et consignations, donc de l'État français, explique que peut-être, effectivement, ils aient pris cette position. Comme on dit en anglais, pour notre invité, follow the money, hein, suivez l'argent, et vous comprendrez pourquoi les gens prennent des positions. Mais bon, on va passer à une pause musicale. Ça s'appelle « C'est pas comme ça », et l'artiste s'appelle Candy Says.
Cause commune.
Empty my glass of red. I no longer count. Sat here for hours looking out over Oxford, the city I no longer know. You told possession. C'est pas comme ça.
Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous prennent la tête. C'est une belle conclusion. Donc, c'était Candy 16. Le morceau s'appelle C'est pas comme ça. Et je rappelle évidemment que c'est sous licence libre. Donc, en l'occurrence, Creative Commons partage l'identique comme toutes nos musiques. Et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Donc, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors, nous allons changer de sujet avec un sujet qui est aussi dans l'actualité, mais un peu différemment, qui est celui des civic tech. Et évidemment, on va aborder plus sur l'angle logiciel libre, transparence et également données ouvertes. Alors, avec nos invités, tout d'abord donc Caroline Corbal de Code for France. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Emmanuel Raviard, développeur logiciel libre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Alors, nous allons parler donc de Civic Tech, de logiciels libres, mais déjà, je vais vous poser une petite question. Je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune. Donc, on va commencer par Caroline. Caroline, que fais-tu dans la vie ?
Alors, j'ai cofondé une association qui s'appelle Code for France. Par ailleurs, je suis présidente de Démocratie OS France. Donc, ce sont deux associations qui sont spécifiquement dédiées au Civic Tech, le sujet d'aujourd'hui. Et par ailleurs, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle InnoCube et qui est spécialiste du logiciel libre, de l'open data et de l'open hardware.
Et on en profite pour saluer Benjamin Jean, qui est le fondateur de ce cabinet. Emmanuel, donc tu es développeur de logiciels libres, alors tu as fait plein de choses. Quelles sont les choses essentielles que tu as faites, notamment par rapport évidemment au sujet du jour ?
Oui, alors comme je suis vieux, j'ai d'abord commencé par créer trois entreprises qui travaillent dans le domaine du logiciel libre ou des données ouvertes. Elles ont toutes les trois la particularité d'être détenues par les salariés et de pratiquer l'égalité des salaires. Entre-temps, j'ai été développeur pour EtaLab et même brièvement directeur technique d'EtaLab.
Rappelle-nous ce qu'est EtaLab.
EtaLab, c'est le service du Premier ministre qui est chargé de l'ouverture des données publiques de l'État. Et après ce passage à EtaLab, j'ai été assistant parlementaire. Voilà.
Alors on va dire, Paula Forteza.
De la députée Paula Forteza.
Qui est donc La République En Marche et qui est notamment très impliquée sur tous les aspects, on va dire, participation, logiciel libre, vie privée, etc. Voilà. Et j'en profite aussi pour signaler par rapport au planning de l'émission. Donc une des entreprises dont tu as parlé, c'est Easter Eggs. Et que nous avons un sujet donc avec justement sur les modèles d'organisation d'entreprises du libre avec Easter Eggs. Donc c'est en mai. Et il y aura aussi la société 24e qui est une scope basée sur l'organisation des... j'ai un trou de mémoire. entreprise libérée, voilà. Et donc pour Easter Eggs, ce sera Pierre-Yves Dillard qui viendra. Alors je ne me souviens plus exactement de la date, mais c'est en tout cas en mai cette émission. Donc on va revenir sur Civic Tech, logiciel libre. Alors on va bien sûr poser déjà la question... C'est quoi ce mot, ce buzzword quelque part qui depuis 2-3 ans, voire un peu plus, arrive ? Civic Tech, ça signifie quoi ? Caroline Corbal.
Alors les Civic Tech, en fait, ce sont des technologies, donc des outils numériques, des logiciels, qui permettent de renforcer la participation démocratique, l'engagement des citoyens, puis aussi la transparence et la responsabilité des institutions et gouvernements. Et donc le buzzword en fait est né en 2016 quand la France accueillait le sommet pour un partenariat pour un gouvernement ouvert. Mais il faut pas oublier que les Civic Tech existaient en fait avant. En fait, déjà en 2009, quand Regard Citoyen s'est créé, l'idée c'était d'utiliser le numérique pour rapprocher les citoyens de l'exercice démocratique et notamment par la publication de l'information publique.
D'accord. Alors c'est intéressant que tu le précises parce que c'est pas forcément nouveau, même si le terme est nouveau. Ce qui peut être intéressant, et on va sans doute en parler dans le cours de l'émission, c'est peut-être la distinction justement entre des structures comme Regard Citoyen qui sont, on va dire, bon, dans la civic tech ou en tout cas dans la participation, dans la démocratie, et des structures qui sont plus côté peut-être civic business, ou justement avec des modèles justement d'organisation totalement différentes basées sur le secret absolu. Donc on va sans doute revenir là-dessus. Mais la première question, donc après cette petite présentation, donc sur ce terme civic tech, c'est il y a une supposition là-dedans, c'est que l'informatique, quelque part, est forcément, et le numérique est forcément bon pour la démocratie. Mais est-ce réellement le cas ? Emmanuel Raviard.
Alors, le numérique, ce n'est pas démocratique en soi. Si vous utilisez les outils numériques pour construire un Internet décentralisé aux mains des citoyens, où chacun peut apprendre et s'exprimer, là, c'est démocratique. Si c'est pour un Internet contrôlé par des GAFAM, par des entreprises qui sont soit américaines, soit chinoises, qui savent tout sur vous, le numérique n'est pas démocratique. Donc, on ne peut pas dire que le numérique n'est pas démocratique.
Caroline ?
En fait, ouais, je pense que souvent le raccourci est fait parce que on peut avoir l'impression, enfin, en fait, de fait, le numérique, c'est une vraie promesse, une promesse formidable pour accélérer la circulation de l'information, pour permettre à chacun de s'exprimer librement, pour permettre en fait aux citoyens de s'impliquer entre deux temps d'élection. Mais c'est hyper aberrant et même dangereux de dire que juste mettre à disposition des outils numériques va avoir des effets démocratiques. En fait, pour que le numérique produise de la démocratie, il faut que lui-même il soit démocratique. Et ça implique des constructions. Et ces constructions-là, elles reposent sur des outils techniques, certes, mais surtout des processus et des valeurs qui doivent être centraux.
Alors ça, c'est très bien, c'est une première introduction, parce que souvent, soit les personnes ont un avis très négatif sur le numérique qui peut apporter rien à la démocratie, soit c'est tout boom et c'est extraordinaire. Donc ça me rappelle un événement, un débat qu'il y avait donc à Paris, je crois que c'était l'an dernier, un événement que tu connais bien, Caroline, vu que tu as participé à son organisation, qui est Paris Open Source Summit. Il y avait un débat à un moment, alors je ne citerai pas les deux personnes, parce que voilà, mais c'est deux personnes politiques, et il y avait un débat sur le vote électronique. Est-ce que le vote électronique, pour les votes institutionnels, j'entends bien, donc les élections notamment municipale ou autre, est-ce que c'était un bien ou un mal? Et puis les deux personnes n'étaient pas du tout d'accord, évidemment, avec des arguments qu'Emmanuel Ravière connaît bien, que beaucoup de gens connaissent bien, contre le vote électronique, notamment pour le fait que ça enlève totalement la participation citoyenne par le dépouillement. Par exemple, une des grandes forces du vote en tant que tel, c'est que le citoyen peut participer et la citoyenne au dépouillement. Donc voilà, ça c'est important de préciser déjà que l'informatique ou le numérique en tant que tel n'apporte pas un vrai plus signe démocratique, s'il n'intègre pas les processus et les bases démocratiques de transparence dedans. Alors justement, on va essayer de voir dans un premier temps quels sont les grands principes qui permettent à des outils de se dire d'avoir avoir un vrai apport démocratique. Donc évidemment, on suppose que nous, qu'il y a le logiciel libre, mais il n'y a peut-être pas que le logiciel libre, il y a peut-être des nuances. Qui veut commencer? Emmanuel Ravière.
Pour contrebalancer ce que je disais sur la neutralité du numérique, il ne faut pas oublier que grâce au numérique, enfin le numérique apporte beaucoup de choses. Il apporte déjà l'information. C'est-à-dire grâce au numérique, les citoyens n'ont jamais été aussi informés ou désinformés, mais enfin quand même globalement informés. Et donc c'est le premier pas qui peut permettre à plus de démocratie. C'est déjà l'information. Après, ce que peut permettre le numérique, c'est donner le pouvoir. Parce que une fois qu'on a l'information, on se retrouve maintenant dans une société où, quel que soit le sujet, il y a toujours, quel que soit l'organe, que ce soit un gouvernement, un parlementaire, un parlement ou des choses comme ça, il y a toujours plus compétent à l'extérieur. C'est ça aussi qu'a apporté le numérique, c'est cette ouverture vers la société civile qui peut maintenant challenger ce que dit l'autorité. Voilà. Et donc c'est un outil le numérique est un outil de puissance, mais pour que cet outil de puissance puisse être vraiment contrôlé, il faut savoir qu'il contrôle. Et pour ça, on a besoin de tout contrôler dans le processus. C'est-à-dire que dans une élection papier, c'est très facile pour un citoyen de suivre exactement ce qui se passe à tous les moments du vote. On peut voir l'impression des bureaux des bulletins de vote, on peut voir la diffusion dans les bureaux de vote, on peut voir l'urne vide transparente se remplir, on peut voir le dépouillement, on peut assister à tout ça. Lorsque c'est numérique, on ne voit rien. C'est-à-dire, il y a tout un tas de choses qui font qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas à la fois l'ordinateur sur lequel ça tourne, parce que même maintenant, on sait qu'on peut pirater les microprocesseurs. Donc, voilà, on ne maîtrise pas le. Si c'est un logiciel libre, on maîtrise son code source. Donc, on peut avoir une confiance sur le code source qui a été développé, mais on n'est pas sûr que c'est celui-là qui est installé, sauf si on a une maîtrise complète du processus qui nous assure que le logiciel dont on a vu le code source est bien celui qui a été installé. On n'a pas de maîtrise sur le réseau, on n'a pas de maîtrise sur... Le grand problème du numérique, c'est que pour remplacer des outils de démocratie existants, ça enlève un contrôle citoyen qu'il y a dans le numérique papier, enfin dans les élections papier. Voilà. Par contre, là où le numérique peut apporter énormément, à condition qu'il apporte toujours ses garanties de transparence, c'est pour des sujets où actuellement il n'y avait pas encore de démocratie. Donc, si on veut, le numérique c'est très bien si ça ne remplace pas la démocratie qu'on a actuellement, mais ça rajoute plus de démocratie. Voilà. Donc, j'ai répondu un peu à côté, mais
de toute façon, je relancerai par d'autres questions.
Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, il faut faire attention là où l'utilise et éviter de remplacer des processus démocratiques qui marchent déjà par d'autres dont on n'est pas sûr qu'ils marchent bien. Et après, faut se donner les moyens de contrôler le plus possible l'ensemble de la chaîne de l'élection. Et ça, avec le numérique, c'est extrêmement difficile. Et bien sûr, l'ouverture des logiciels, l'ouverture des données publiques et des choses comme ça est une composante, mais c'est pas suffisant.
Alors, on va revenir un peu plus précisément sur ces questions. Je vais laisser la parole à Caroline, mais je vais revenir sur deux réactions par rapport à ce que tu me dis. Même dans l'action citoyenne ou l'action des structures comme l'April, l'informatique et le numérique nous a donné accès plus facilement à des parlementaires, par exemple, alors que les lobbies traditionnels en avaient accès direct tout simplement par leurs moyens. Donc je me souviens par exemple qu'en 2006, lors des débats sur la loi droit d'auteur, il y avait un parlementaire, on ne va pas le citer parce que même il est monté très haut en connaissance aujourd'hui, donc il est assez connu, qui avait dit raconter juste n'importe quoi en hémicycle, et il avait été pris à partie en tout cas par des gens, et étaient venus s'expliquer sur les forums de Framasoft. Voilà. Et deuxième exemple, c'est la directive droit d'auteur, où des gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'un lobby pour aller voir les parlementaires ou les codes pour les contacter, peuvent tout simplement leur envoyer des courriels ou ne serait-ce que sur Twitter échanger. Donc je salue par exemple le travail aujourd'hui qu'a pu faire Pierre Bessac, qu'on a reçu dans cette émission et qui encore récemment échangeait beaucoup sur Twitter. Donc voilà, effectivement, ce pouvoir qu'apporte aux citoyens et citoyennes l'informatique est un point essentiel. Et aussi la transparence avec le travail que fait par exemple Julia Reda. Étienne vous dirait ici qu'on a attendu des semaines avant d'avoir les textes officiels sur la directive droit d'auteur suite au Trilogue, alors qu'en fait finalement c'est Julia Reda qui est arrivée à publier un certain nombre de bouts. Donc toujours sur ce sujet-là, Caroline Corbal.
Bon, déjà je suis complètement en phase avec ce qu'a dit Emmanuel, j'espère que ça lui fera plaisir. Et peut-être pour résumer sur les grands principes qu'on essaye un peu d'avoir toujours en tête côté Code for France dans le cadre de démarches de participation qu'on encadre, c'est vraiment résumé, hein. C'est donc la transparence, sur le fonctionnement des outils, donc être en capacité d'auditer le logiciel, de comprendre comment les données sont traitées, transparence aussi des processus, donc des règles du jeu dans lesquelles les citoyens s'embarquent durant ces démarches de participation. Autre principe, la liberté d'accéder au code, la liberté de le modifier, de se le réapproprier, la liberté aussi tout simplement de s'exprimer. La diversité, je pense que ça, c'est super important dans les civic tech, parce qu'aujourd'hui, les civic tech, elles touchent une partie de la population qui est encore extrêmement réduite. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour aller toucher d'autres publics. Et donc, je pense que la diversité doit vraiment être au cœur des démarches de participation citoyenne. C'est vraiment dans l'inscription même du principe d'égalité à la vie publique, en fait. Et ça passe par de la pédagogie, par des dispositifs de montée en compétences des publics éloignés du numérique. Ça passe aussi par... développer des outils qui sont accessibles et pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir exactement le même accès que les autres à ces outils-là. Et dernier principe, il pourrait y en avoir plein, mais on va se limiter à quatre, je dirais la collaboration. Donc de permettre à tout le monde de pouvoir collaborer sur le futur de ces outils. En fait, un outil numérique, ça doit répondre à des besoins. Et donc... le corollaire, c'est qu'on doit pouvoir participer à l'évolution des outils pour qu'ils répondent à un besoin. C'est assez logique, en fait. Et en parallèle, la collaboration aussi entre différents types d'acteurs. Les civic tech doivent permettre à des institutions de collaborer avec la société civile, avec des entreprises, avec des chercheurs, etc.
D'accord. Alors, on va peut-être préciser, je vais laisser après la parole à Étienne qui veut intervenir. Pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui ? C'est que peut-être les gens se disent « civic tech, ça ne me concerne pas », mais en fait, aujourd'hui, il y a des débats. L'un vient de se terminer, c'est le grand débat, hein, je prends le terme officiel, hein, je n'y voyais aucune connotation de positionnement par rapport à ce sujet-là. Il y a le vrai débat, donc gilet jaune, et bien, derrière, il y a des outils. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que derrière, c'est le même outil d'une plateforme. Alors, évidemment, autant vous le dire tout de suite, cet outil-là n'est pas du tout dans les règles que nous venons d'évoquer, et on va expliquer évidemment les problématiques que cela propose. Et donc voilà, je voulais rappeler ce point-là, c'est qu'on fait cette émission-là aujourd'hui parce qu'il y a ce cadre-là, même si ce n'est pas nouveau, le fait d'avoir un acteur, et on va y revenir, qui est à peu près en situation de monopole et en plus avec un contrôle total sur l'outil, sur ce qui en est fait, est quelque chose évidemment qui nous perturbe, enfin, en tout cas qui nous questionne plus que ça, alors qu'il existe, comme vient de le dire donc Caroline, des méthodes différentes, des positionnements différents et évidemment des outils différents, et on va y revenir dans le détail de ces différents points. Étienne Gonu, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, moi je voulais rebondir parce que je trouve très intéressant la manière dont tu as découpé présenté ces principes. Il y a deux aspects sur lesquels que ça m'évoque. C'est d'une part, et pour cela d'ailleurs, que le logiciel libre est une brique indispensable pour qu'une civic tech puisse être considérée comme une civic tech. Déjà parce que c'est aussi intégré que le processus, comment est organisé un débat, le processus du débat doit pouvoir aussi être débattable lui-même, on doit pouvoir agir dessus, puisque ça fait en fait partie du débat aussi. Et sur l'auditabilité, il n'est pas forcément question que tout le monde soit en mesure d'avoir cette capacité-là d'aller auditer un texte, d'être capable d'agir dessus, mais c'est cette transparence que ça apporte, c'est ça qui va permettre d'avoir cette confiance. Et... la même manière que on sait dans une démocratie, le fait que le droit soit accessible, qu'on puisse savoir quelles sont les règles qui s'imposent à nous, c'est un critère indispensable dans un état de droit, mais tout le monde n'est pas en mesure de lire un texte juridique. Mais le fait que ce soit accessible et transparent est en lui-même un critère indispensable.
Alors, On va essayer de repasser en revue ces différents points, même si certains ont été... en rappelant que chacun n'est pas suffisant en tant que tel, hein, c'est un ensemble qui permet, et même qu'avec ça, on verra tout à l'heure qu'il y a sans doute pas, qu'il reste encore des choses à faire. Donc déjà, pour parler de ce que nous, évidemment, il nous intéresse en premier, qui est la partie logiciel libre, c'est donc le code source de la plateforme. Donc quand on parle de la plateforme de consultation, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle soit en logiciel libre, donc ça c'est le premier. Donc c'est un impératif nécessaire mais pas forcément suffisant. Donc tout à l'heure, Emmanuel Ravière, tu as un petit peu expliqué, est-ce que tu peux revenir dessus rapidement?
Avoir le code source d'un logiciel et un logiciel de vote, ça permet de vérifier que le logiciel a bien été conçu pour la raison pour laquelle que le logiciel fonctionne bien de la manière dont on dit qu'il a été conçu. C'est ça, ça permet d'auditer le code. Alors il y a d'autres manières ça permet d'auditer ce que fait le logiciel. Il y a d'autres manières d'auditer, on peut aussi le traiter comme une boîte noire et vérifier ses entrées-sorties, mais quand on veut vraiment s'occuper de... Il faut savoir que dans un logiciel, chaque caractère, chaque octet, chaque instruction peut avoir un effet. Et donc il faut absolument pouvoir connaître tout ça, le disséquer, le... Et à tel point que il est reconnu par les experts de sécurité que pour qu'un logiciel, une bonne manière de rendre son logiciel sécurisé, c'est de le rendre libre. Voilà. Donc c'est la même chose pour la démocratie. Une bonne manière de s'assurer que ce logiciel respecte ce qu'il est censé faire, c'est d'avoir le code source, de pouvoir le vérifier. Ce n'est pas suffisant. Oui.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Non.
Alors, effectivement, c'est un premier élément. C'est la sécurité par la transparence versus la sécurité par l'obscurantisme ou l'obscurité plutôt.
Mais c'est, j'insiste vraiment, c'est pas suffisant. Hein. Maintenant, on n'est pas les logiciels tournent sur des microprocesseurs. Même les microprocesseurs en tant que tels peuvent se faire pirater, parce que dans les microprocesseurs, il y a maintenant des logiciels. Donc, c'est pas parce qu'on est sûr que le logiciel tourne sur que le logiciel qu'on a installé, qu'on a vu, dont on a vu le code source qui est installé est bon et bien libre et bien celui qu'on croit qu'il est, c'est pas pour ça que l'ordinateur va faire exactement ce qu'on croit qu'il va faire. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut penser à l'ensemble de la chaîne. Hein, c'est une chaîne de production. Il faut faire toutes les étapes une par une et ça c'est sans doute surhumain.
Également, la confiance, c'est pas blanc ou noir. On accorde un degré de confiance. Un des éléments, c'est le code source. Un deuxième élément qui est un peu lié au code source, mais pas forcément totalement, c'est les... Alors là, on peut prendre les consultations où il y a des gens qui proposent des choses, qu'on peut voter, soutenir, etc. C'est les algorithmes qui traitent ces données, notamment de mise en valeur. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, sur une consultation, telle proposition est mise en valeur et pas telle autre. Et donc, c'est l'accès à la documentation détaillée des algorithmes, voire qui sont ensuite mis en œuvre dans un code source. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est assez proche du code source, mais qui est finalement l'accès aux algorithmes des contributions, donc qui permet de gagner une transparence et de voir effectivement comment sont mises en valeur tel ou tel processus, et également de voir pourquoi tout d'un coup une proposition prend beaucoup de votes alors que quelques jours avant elle n'avait pas forcément beaucoup de votes. Caroline ?
Oui, je suis complètement en phase avec ça. Donc ouverture du code source, transparence des algorithmes, et puis après un point complémentaire, je pense que c'est l'ouverture des données.
Alors c'était le troisième point dans ma liste sur mon papier. Et en fait, oui, exactement. Donc l'ouverture des données, vas-y Caroline.
Donc l'ouverture des données. Tu voulais rajouter quelque chose d'abord sur le sujet précédent?
Ouais, sur la partie algorithme.
Emmanuel,
c'est un sujet. Le mot algorithme me fait à chaque fois bondir parce qu'en fait l'algorithme c'est un peu le vœu pieux de ce qu'on veut que le logiciel fasse. Quand on commence à dessiner un logiciel, on peut éventuellement penser à un algorithme, c'est-à-dire une abstraction de ce que le logiciel va faire réellement. Or, tout codeur sait que même si on a un cahier des charges précis, à un moment, le développeur va lui-même avoir des marges de manœuvre et des choses comme ça.
Ouais.
Et donc, connaître l'algorithme, ça peut être intéressant, mais ce n'est sûrement pas suffisant. Il faut toujours connaître le code source, parce que ce n'est pas parce qu'on croit qu'un logiciel fait ça que le logiciel en détail fait réellement ça. Et souvent, le fait de dire « je vous donne l'algorithme », c'est aussi un moyen de ne pas donner le code source et donc de ne pas savoir ce que fait le logiciel. Donc, et mon raisonnement est un peu différent, c'est de dire « si vous voulez connaître l'algorithme, commencez-nous par nous donner le code source et de là, on pourra retrouver en ingénierie à l'inverse l'algorithme ». Mais voilà, toujours dire « la priorité, c'est le code source plutôt que l'algorithme ». Je voulais juste insister là-dessus parce que l'algorithme, c'est un vœu pieux. Le code source, a priori, c'est ce que ça fait réellement.
Alors, tu as tout à fait raison. Alors, en plus, pour faire en écho à une émission émission qu'on a faite récemment sur Parcoursup. Il y a les algorithmes des fois nationaux, puis des fois il y a des algorithmes locaux. Puis après, comme tu le dis, il y a la mise en œuvre de ces algorithmes par les personnes qui développent et qui ont une liberté d'implémentation, ou tout simplement qui des fois peuvent faire tout simplement des erreurs. Voilà, donc effectivement, donc c'est chaque bout qui est important. Et in fine, pour la personne qui maîtrise, l'accès au code source est essentiel. Ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance, la mise en œuvre, enfin la publication d'algorithmes permet d'élargir les nombres de personnes qui peuvent essayer de comprendre comment ça fonctionne, même si in fine, effectivement, il faut quand même aller jusqu'au bout, donc les algorithmes, le code source et éventuellement, et si possible, la partie, comme tu le disais tout à l'heure, processeur, microprocesseur, les plus spécialisés, etc. Mais alors là, on rentre dans un débat très important et très compliqué, mais qui est effectivement totalement essentiel.
Il faut juste savoir que là, le département, le DARPA américain, donc ceux qui ont créé Internet il y a quelques années, là, actuellement, a une initiative sur le vote électronique. Et rien que, ils dépensent déjà 10 millions de dollars, rien que pour concevoir un logiciel libre de vote. Et ils disent, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc ils savent très bien que ça ne sera pas suffisant, vraiment.
Tout à fait. Alors, donc les données ouvertes, donc ça c'est une troisième, un point supplémentaire, donc la publication des données ouvertes, sauf les données personnelles. Alors après, il peut y avoir un petit débat sur où se situent les données personnelles. Donc en quoi est-ce essentiel d'avoir l'accès à ces données ?
Alors l'accès aux données est essentiel déjà pour un impératif de transparence, pour aussi vérifier, pour que les citoyens puissent effectuer des vérifications. Et c'est notamment pour ça qu'on s'est positionné avec Code for France dans le cadre du grand débat, parce que les données n'étaient pas toutes mises en open data. Alors déjà, pas mises tout de suite en open data, et ensuite pas toutes mises en open data. Et on considère que c'est un impératif démocratique de base. Et en fait, on a mis à disposition du coup les données au grand public, avec une mise à jour régulière, ce qui a permis en fait à des citoyens de s'approprier ces données, d'y accéder, de les utiliser, de s'y approprier, notamment à des chercheurs. Il y a plein de chercheurs qui ont commencé à faire leurs analyses et ça a permis la production d'analyses citoyennes, donc des analyses par et pour les citoyens. Et notamment, je vous invite à aller voir un projet qui s'appelle lagrandeannotation.fr qui repart des contributions publiées sur la plateforme pour permettre à des citoyens de les annoter. Donc c'est vraiment une analyse du grand débat par les citoyens. Il y a déjà des projets qui ont repris la grande annotation. Donc ces projets en plus se complètent, donc c'est ça qui est super riche et qui est né en fait de l'ouverture des données.
Et ce qui peut avoir pour effet de bord aussi, de montrer peut-être les limites de la plateforme officielle, quand on permet à partir des données de faire des analyses, d'arriver peut-être à des conclusions radicalement différentes. Et évidemment, avoir uniquement les données disponibles, mais sans le code auditable, Manuel va nous dire que ce n'est pas suffisant, évidemment, hein, il faut que la plateforme soit notamment auditable. Mais en tout cas, ça permet à des chercheurs de faire des analyses, de mettre en valeur donc, des contributions, et puis aussi de voir les mobilisations, c'est-à-dire des fameux lobbies, on l'a vu notamment sur des mobilisations précédentes ou sur des consultations précédentes, ne serait-ce que récemment, le Conseil économique et social qui a fait une consultation, donc, je ne sais plus quel titre ils avaient intitulé, mais qui était dans le cadre des débats, et il y a une mobilisation très forte des gens qui étaient contre le mariage pour tous, et cette mobilisation s'est vue, et après on peut analyser d'où viennent les contributions quand on a effectivement accès à ces données, donc ça c'est essentiel. Alors je vois que notre invité suivant va bientôt s'installer, vous entendrez peut-être un petit peu de bruit. Tout à l'heure tu as cité, et avant qu'on fasse bientôt une pause musicale, un élément important, parce que là on est sur on est sur la technique avec le logiciel libre, on est sur les données, et il y a l'humain, la gouvernance. Tout à l'heure tu as parlé d'impliquer les différentes structures dans la gouvernance, dans comment fonctionne la plateforme, comment évolue la plateforme, parce qu'une plateforme qui est éditée par une seule entreprise, c'est l'entreprise qui décide comment c'est évolué. Et donc, un point essentiel pour que le numérique devienne démocratique, comme tu disais tout à l'heure, c'est la partie, on va dire, gouvernance, l'implication de l'ensemble des acteurs et des actrices, utilisateurs ou utilisatrices de la plateforme, ou en tout cas intéressés. Est-ce que tu peux un petit peu détailler cet aspect-là, s'il te plaît, Caroline ?
Oui, complètement. Alors ça, c'est un modèle qui nous est extrêmement cher, que ce soit côté Démocratie OS ou Code for France, c'est les communs numériques. On est convaincu que les civic tech doivent être impérativement des communs numériques. Donc peut-être pour donner une définition des communs. Alors les communs, c'est des ressources partagées. Donc c'est des ressources qui sont développées par un ensemble d'acteurs qui est souvent hétérogène et qui sont régies par des règles qui assurent leur caractère ouvert et partagé. Donc on peut avoir tout type de communs et les logiciels peuvent être des communs. Et ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est la partie, comme tu le disais, gouvernance. Donc, par exemple, le choix de la licence fait partie de ces règles-là. qu'on va mettre en place.
Le choix de la licence de la plateforme.
Oui, pardon, associé au logiciel. Puis après, il y a toutes les règles qui vont permettre à chacun de s'impliquer dans l'évolution de l'outil. Donc un exemple que j'ai en tête, c'est le logiciel Decidim, qui est un logiciel qui est né en 2015 à Barcelone et qui aujourd'hui a pas mal progressé et qu'on utilise aujourd'hui en France. Et donc en fait, c'est un logiciel où on retrouve des acteurs publics, donc l'impulsion très forte, hein, elle est publique à la base, mais on retrouve aussi des citoyens bénévoles, aujourd'hui aussi des entreprises qui contribuent, des chercheurs. Donc on a tout cet ensemble d'acteurs qui contribuent au futur du logiciel, qui disent qu'ils aimeraient développer telle ou telle fonctionnalité. Et en fonction de règles qui ont été établies collectivement par la communauté, des investissements sont fléchés vers le développement de ces fonctionnalités. Donc c'est un modèle que je trouve particulièrement intéressant et pérenne pour garantir la pérennité des plateformes, leur indépendance. Et je pense qu'on a tout intérêt à investir sur ces modèles-là.
D'accord, bon, justement tu parles d'investissement, après la pause musicale on parlera aussi un peu de modèle économique, de fonctionnement. Donc là je crois qu'on a fait le tour sur les principes essentiels pour que finalement l'outil numérique ait sa toute force démocratique, mais c'est sans doute pas suffisant. Par exemple, le simple fait de la façon de poser les questions sur une consultation est en soi un vrai questionnement, un vrai problème par rapport aux objectifs. Je sais qu'il y a eu un débat entre les garants, je crois, et justement les organisateurs du grand débat sur la façon de faire des questions soit ouvertes, soit fermées. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus,
Emmanuel ? Je voulais rajouter quelque chose, parce que ce que dit Caroline sur les communs est très intéressant, mais moi j'apporterai des nuances, parce que si on fait la comparaison avec le monde du logiciel libre en général, le monde du logiciel libre, c'est plein de projets, avec chacun des gouvernances très différentes. Il y en a qui sont gérées juste par un développeur, d'autres qui sont gérés par une association, une fondation et des choses comme ça. Il y en a certaines qui essaient de créer le modèle démocratique idéal pour créer le logiciel. Et je ne crois pas qu'il existe de modèle démocratique idéal pour construire un logiciel. Il y a des logiciels qui peuvent être codés par une personne, d'autres qui peuvent être codés par une autre équipe. Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir et c'est ça qu'apporte le logiciel libre, c'est cette communauté, ce vivier de gens avec tout un tas de projets qui sont gérés de manière différente. Et de temps en temps, il y en a un qui marche, hop, on reprend l'idée, on en fait un projet concurrent ou alors on l'améliore. Voilà. Et cette énergie parallèle et ces choses-là qui, à mon avis, est plus important que la gouvernance des communs. C'est le logiciel libre, c'est le choix. Et finalement, au lieu de chercher à dire on va faire une démocratie parfaite, on va faire des outils parfaits avec un fonctionnement démocratique parfait, je crois que le plus important, c'est de dire il faut pouvoir innover sur plein de sujets différents et pouvoir prendre les meilleurs logiciels au fur et à mesure des besoins. Voilà. Je voulais juste, c'est une nuance que j'apporte, parce que souvent on commence par dire pour créer mon logiciel, je vais d'abord créer la structure démocratique parfaite. Et généralement, une fois qu'on a créé la structure démocratique, on a oublié qu'on voulait faire le logiciel. Mais voilà, un logiciel peut se faire de manière très dictatoriale et ça peut être un très bon logiciel libre quand même. Voilà,
mais en fait, sur Decidim, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'est les besoins techniques qui ont prévalu. C'est que Consul n'allait pas, il manquait des fonctionnalités. Et c'est juste ensuite, quand il a fallu rajouter de nouvelles parties prenantes, parce qu'il y avait pas mal d'autorités locales aussi qui ont voulu se rajouter, là, il a fallu créer des règles de gouvernance adaptées.
Alors justement, pour mieux comprendre, pour que les personnes comprennent mieux, après la pause, on parlera un peu plus de Decidim, justement, quel est ce logiciel, cette plateforme, parce qu'effectivement, à quoi ça sert et comment c'est né. On va faire une... Tu peux rentrer, Vincent Calame qui rentre. Alors en fait, on va faire la pause musicale, donc tu tombes au moment. Donc on va faire une pause musicale, ça s'appelle Le Jour du Départ, et c'est Max Livio.
Cause commune.
Max Livio inadipante. Some dynamic in a dépend.
Hey, Rassemblez.
C'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Préparez.
Pour le top départ.
Le devoir m'appelle, la musique m'a filé rentre.
Rassemblez. C'est le jour du départ. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Celui que j'attends me donne l'envie de me lancer, avancer sur les voies de l'homme que j'ai choisi de devenir. Je suis comme ce gosse sur les bancs de l'école qui mange sa pomme avant que ça sonne, avant que ça cogne. J'y mets la somme de tous mes efforts, je m'y accroche, je m'y cramponne. Pour que tome après tome, mon histoire se transforme. Les erreurs, je les gomme, des expériences, je ne garde que les bonnes. Et je run like a champion à la bout du bandant.
Rassemblez,
c'est le jour du départ.
c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Pour le top départ,
le devoir m'appelle, la musique m'a filé rancard.
C'est le jour du départ,
c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Laisse-moi partir le cœur en paix, c'est l'heure de rentrer à la maison. Hey, et si c'était à refaire, on chanterait la même chanson, celle qui résonne dans ma tête comme un emblème. Une bonne combinaison sans contrefaçon. L'assemblée,
c'est le jour du départ, c'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire. C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Pour le top départ,
le devoir m'appelle, la musique m'a filé rancard.
C'est le jour de départ, j'ai les jambes pris du retard, man, je me démène comme je peux. J'essaie de me battre comme pas deux pour contourner tous ces remparts. La peur opère des voix, mais je me rassure quand je me compare. Keto youth dans les taudis, tout est fait pour que tu fasses vendre ta part. Personne ne sera là, tu le sais, vas-y, charbonne pour prendre ta part. Ça demande du taf, ça demande des efforts le matin, midi et soir. Dans le wagon bar, je me laisse guider, je mets de côté, je garde espoir. T'as te dire quelque part, ouais, il va le falloir tôt ou tard.
C'est le moment d'y aller.
C'est le jour du départ.
C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Pour le top départ,
le devoir m'appelle, la musique m'a filé rancard.
C'est le jour du départ.
C'est le moment d'y aller, d'écrire la suite de l'histoire.
Pour le top départ,
le devoir m'appelle, la musique m'a filé rancard.
Donc nous venons d'écouter Max Livio, donc c'est un reggae tout à fait sympathique. Les personnes qui suivent l'émission ont peut-être déjà reconnu, parce qu'on l'a déjà passé. Et on a appris récemment que Max Livio faisait partie des candidats d'une émission de télé sur TF1. Mais c'est un artiste qui tourne depuis une dizaine d'années, et donc il a fait au moins un album en licence. Donc Creative Commons partage à l'identique, donc ça s'appelait Le Jour du Départ, Max Livio. Donc, vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Nous parlons toujours du sujet des civic tech et du logiciel libre, des données publiques, des données ouvertes, de la gouvernance. Donc, on a parlé un petit peu, pas théorique, mais en tout cas, grandes idées et échanges. On va parler un peu maintenant un peu plus concret. Et notamment, on va citer quand même la structure qui est en situation quasiment de monopole en France depuis quelques années sur ce sujet-là, alors qu'il n'est pas du tout dans le mode du logiciel libre, qu'il n'est pas du tout dans les données ouvertes, et qu'il n'est pas du tout dans une gouvernance ouverte également. C'est donc la société Cap Collective qui existe depuis 2014. Et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, leur outil propulse de nombreuses consultations depuis quelques années en France, et notamment les consultations récentes du grand débat, du vrai débat. J'aurais envie de vous demander quel problème pose l'utilisation de cette plateforme, même si on a bien idée de la réponse, mais quand même, alors, qui veut commencer sur Emmanuel Raviard ? En fait, ils sont en train de se regarder tous les deux.
À qui ne voudra pas répondre ? Voilà. Je vais prendre le problème... un peu différemment, parce que en fait, quand on y réfléchit, là, on est en train de demander aux citoyens de proposer de mettre leurs opinions politiques, qui est quand même quelque chose qui, pour l'instant, était jusqu'à présent était considéré comme très proche de l'intime et du secret, sur une plateforme hébergée par un prestataire dont on connaît un peu les antécédents, notamment...
Alors, quels antécédents ? Parce
que... il a été lobbyiste, notamment pour l'industrie du tabac ou autre. Ouais, enfin, c'est un lobbyiste, même agressif, parce que j'ai même été une fois victime de son lobbying, donc je peux vous le raconter. Enfin, je ne vous le raconterai pas, mais enfin, c'est agressif. C'est pas illégal et tout, mais c'est un peu violent. En fait, c'est pas tellement là-dessus c'est pas ça le sujet intéressant. C'est on est en train de demander aux citoyens de mettre des choses qui sont quand même très privées et qui, dont on a tout intérêt à se protéger et à les laisser secrets, sur une plateforme dont on ne maîtrise pas grand-chose, qui travaille en plus pour le ministère de l'Intérieur, dont on ne maîtrise pas totalement. Voilà, donc c'est, en fait, là, on est en train de se dire que les citoyens sont invités à donner leurs opinions politiques à une plateforme privée et aussi au ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est, on peut peut-être réfléchir là-dessus deux minutes, mais c'est une façon de prendre le problème un peu différemment. Voilà, sans...
Et alors, comment expliquez-vous ce quasi-monopole? Parce que finalement, tout à l'heure, Caroline parlait de Décidim, mais il y a aussi des logiciels libres de consultation. Il y a Démocratie OS, vous en faites la promotion et vous en connaissez certains. Est-ce que vous avez une idée de ce qui explique de ce monopole de fait? Emmanuel Ravier a l'air d'être bien au courant.
Non, je ne suis pas bien au courant, mais c'est une entreprise qui est très efficace, qui a su créer une association autour de son logiciel, qui a su faire du lobbying, qui est là depuis assez longtemps. D'ailleurs, elle a le mérite d'être assez, un peu antérieure à d'autres initiatives. Et c'est un très bon lobbyiste qui connaît le fonctionnement de l'Assemblée, qui connaît le fonctionnement du politique, qui avait ses réseaux. Donc, il avait un tapis rouge devant lui et il est suffisamment bon pour s'en servir. Voilà, donc c'est aussi une des raisons de son succès.
D'accord. Est-ce que Caroline, tu veux ajouter quelque chose dessus ou tu estimes qu'Emmanuel a tout dit?
Je pense que il a fait le tour.
Alors, pour les personnes, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails des activités de Cap Collectif et de l'historique donc de Cyril Lage, son cofondateur, mais sur le site de l'April, vous pouvez aller voir, j'ai mis des références parce qu'il a fait l'objet de plusieurs enquêtes récentes, donc notamment sur Bastamag. Il y a un article aussi de Kitry de Villepin sur Mediapart, il y a un article récent dans Les Jours, mais je crois que Les Jours c'est réservé aux personnes abonnées, mais en tout cas voilà, il y a effectivement un questionnement qui est fait à la fois sur le recours à cette plateforme totalement privatrice et sous le contrôle d'une seule structure, et puis sur le passé effectivement de cette personne qui a été donc 10 ans lobbyiste chez Spin Partners, le patron de Spin Partners est l'un des directeurs de l'école de guerre économique, donc on voit déjà quand on parle d'école de guerre économique, on n'est pas du tout dans le même type de société que la nôtre, et qui a en grande partie théorisé aussi le fait de créer des plateformes de consultation citoyenne pour la manipulation de l'opinion. C'est des choses qui ne sont pas très surprenantes. Donc une question qu'on peut se poser, mais je ne me la poserai pas évidemment, c'est pourquoi avoir créé Cap Collectif? Est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt général ou pour une autre raison? Mais ceci dit, ça pose une question, parce que finalement, Cap Collectif, son modèle économique, c'est sur des ventes de licences, comme Microsoft historiquement et d'autres. Et donc, quand tout à l'heure, Caroline Corbal, tu parlais notamment d'autres outils, donc là, en logiciel libre, avec une transparence et une gouvernance totalement différente, donc tu parlais notamment de Décidim. Quels sont justement les modèles économiques pour les structures qui créent ce genre d'outils, donc, mais vraiment à ce coup-ci en logiciel libre, avec données ouvertes, et peut-être l'occasion de nous expliquer ce qu'est Décidim, comment ça fonctionne, comment ça a été créé.
Alors sur cette question déjà des modèles économiques, peut-être une remarque préalable, c'est que pour les civic tech, on peut faire coexister des modèles non lucratifs aussi, donc c'est fondamental que les assos continuent d'exister avec des modèles non lucratifs et qu'en parallèle, des entreprises puissent vivre de modèles viables et pérennes.
Oui d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, par rapport à ça, avant que tu poursuives, on va rappeler que dans le politique... une bonne partie du politique est faite de façon totalement bénévole. Hein. C'est-à-dire que par les militants, par les gens qui collent les affiches, par ceux qui vont faire, par exemple, les gens qui vont faire le dépouillement dont on te parlait tout à l'heure, c'est de façon bénévole. Donc c'est effectivement important ce que tu rappelles, qu'il y a une partie non payée, on va dire, quelque
complètement.
Part, dans ce mode politique, et que c'est même peut-être la majorité des cas. Vas-y, je te laisse poursuivre.
Et donc, il faut que ces deux modèles-là cohabitent. Et sur le modèle économique de certaines entreprises, un modèle qui peut être intéressant, c'est celui qui est expérimenté encore aujourd'hui, parce que c'est pas rien n'est écrit et rien n'est évident. Ils sont encore en train d'apprendre et d'expérimenter. C'est une entreprise qui s'appelle Open Source Politics et qui propose du service en fait autour de logiciels libres pour la participation citoyenne. Donc principe, donc il y a eu Democracy OS beaucoup et aujourd'hui ils utilisent beaucoup.
Donc Democracy OS, c'est un outil.
C'est un outil, c'est une plateforme de consultation en ligne. Okay. Et aujourd'hui, ils utilisent beaucoup le logiciel Décidim, qui est assez complet en termes de fonctionnalités. Il permet d'avoir des boîtes à idées, de la consultation, des budgets participatifs. Donc, il y a plusieurs collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, qui utilisent Décidim pour leur démarche de participation. Et une entreprise comme Open Source Politics, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire donc de l'accompagnement, donc du service autour de ces communs numériques. Donc ça va être par exemple tout ce qui est processus d'animation, de la consultation, mais aussi développement de fonctionnalités, adapter le logiciel aux besoins de l'utilisateur, etc. Et que toutes ces améliorations-là sont reversées ensuite, grâce à la licence qui est associée à Decidim, sont reversées au pot commun. Donc elles peuvent bénéficier aussi à des projets qui n'ont pas de budget, qui ne souhaitent pas se faire accompagner, etc. Donc en fait, ça enrichit le commun qu'est Decidim. Donc ça, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant aussi pour une autre raison, c'est que des modèles comme celui qu'on a évoqué précédemment avec Cap Collectif, ça pose un problème éthique qui est celui de l'investissement public, dans le sens où à chaque fois qu'une collectivité locale, je reprends cet exemple-là parce que c'est aujourd'hui un peu plus courant dans les civic tech, utilise Decidim, il repaye pour accéder au logiciel. Et à chaque fois, c'est de l'argent public, donc c'est de l'argent du contribuable, alors qu'avec des outils s'ils utilisent des communs numériques, ils vont peut-être plus investir sur l'amélioration du logiciel pour qu'il réponde plus aux besoins des citoyens ou sur de l'accompagnement, donc pour que la démarche se passe mieux. Et puis en plus, surtout, ça sera reversé au pot commun. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Et je pense qu'il y a encore énormément de pédagogie à faire sur ce modèle-là, que ce soit auprès des institutions publiques, des citoyens et des entreprises.
D'accord. Et donc, Decidim, historiquement, si je me souviens bien, pour faire le lien avec la discussion tout à l'heure entre on fait une gouvernance et on développe, Emmanuel Raviard qui dit bon, on a révélé que... Non, en fait, je voulais le faire rire. C'était mon test.
Ça y est.
Voilà, c'est fait. Bon, on a révélé que Emmanuel Raviard, on se connaît depuis de nombreuses années, donc je l'appelle par son petit nom. Mais et donc l'explication d'Emmanuel Raviard, dire on commence par coder et puis après il faut ce qui est important c'est avec le code. Decidim, donc si je me souviens bien, c'est la mairie de Barcelone qui a lancé ce projet initialement, et je vais te laisser l'expliquer très rapidement. Et je vais quand même préciser que malgré le nom Open Source Politics, c'est une entreprise française. Hein. C'est pas une multinationale américaine, pas du tout. C'est une entreprise française qui doit peut-être être basée à Saint-Denis ou Paris, je ne sais plus.
Ils sont à Paris maintenant.
À Paris. Et donc Decidim initialement, donc c'est développé par un besoin d'une collectivité donc qui est la mairie de Barcelone et qui ensuite donc a évolué et qui est reprise aujourd'hui dans d'autres collectivités, notamment grâce au travail d'entreprises comme Open Source Politics. C'est bien ça.
Exactement. Bah, tu l'as extrêmement bien décrit. C'est né à Barcelone. Ils avaient utilisé Consul, qui était l'outil lancé par Madrid initialement. Progressivement, ils ont développé Decidim. Ils ont inclus de plus en plus d'acteurs dans la gouvernance. Donc, ils se sont posé des questions pour qu'il n'y ait pas de position dominante qui émerge dans la gouvernance de l'outil. Et donc, ils ont établi un certain nombre de règles. Je vous invite à aller voir Meta Decidim. C'est la communauté qui gère Decidim, l'évolution du logiciel. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet prend vraiment une dimension européenne aujourd'hui, et donc notamment en France. Et donc, dans Code for France, une de nos ambitions, c'est de rendre... de faire progresser Decidim, de faire en sorte qu'on puisse rendre accessible à de nombreux publics, notamment qui n'ont pas de budget. Et là, on va lancer une plateforme Decidim gratuitement à disposition des associations parisiennes, parce qu'il y a beaucoup d'associations parisiennes qui ont besoin d'outils de démocratie participative ou même de gestion interne un peu plus participative de leur vie quotidienne. Donc voilà, ça, c'est un des projets qu'on va mener avec Code for France sur Decidim. Et je ne sais plus où je vais en venir avec tout ça. Un dernier point peut-être sur les communs numériques. Merci. Un des enjeux qu'on va avoir à gérer, je pense, avec ces communs pour la participation, c'est de toujours se rappeler cette volonté qui est à la base du commun, qui est de créer, de garantir des conditions d'accès égalitaires aux communs. Et que, en fait, aujourd'hui, le commun, il est de plus en plus technique, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui se développent. Et un des enjeux, ça va être aussi de continuer à faire en sorte qu'il soit simple, accessible pour tous. Et en fait, ça demande un effort, c'est pas naturel. Parce que là, on tend vers l'expertise, et il va falloir toujours avoir ce truc en tête et investir pour qu'en fait, ça reste quelque chose de vraiment accessible dans les faits, pas que dans le discours.
Exactement. Étienne, tu voulais intervenir. Étienne Connu.
Ah, bah... C'était simplement pour dire, en fait, je pense que tu défends même très bien globalement, tes arguments sont très bons juste pour défendre la priorité au logiciel libre que nous on défend, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans ce reversage au pot commun, sur cette idée finalement que les plus grosses, et notamment, on voit bien, des grosses collectivités, si l'État soutient et finance du logiciel, les plus petites collectivités, des plus petites associations, va pouvoir en fait bénéficier des développements faits, du financement en amont. Donc voilà, moi je pense que c'est extrêmement bien dit, ouais.
Et tout dépend d'une volonté politique initiale. À Barcelone, il y avait une volonté politique de faire un commun. Et visiblement, en France, la volonté politique des communs n'est pas encore tout à fait présente. Je veux dire qu'on ne va pas guère être surpris vu les dernières annonces qu'on a concernant les structures comme la DINSIC, donc la DSI de l'État ou autres structures. Caroline, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, juste peut-être quand même pour souligner le travail de la mission Société Numérique qui dépend de l'Agence du Numérique.
D'accord.
Et qui investit pour les communs numériques. Et l'année dernière, on a publié avec eux, avec toute une communauté d'acteurs dans le cadre de l'événement Numérique en commun, un tutoriel pour les communs numériques. Donc pour aider notamment les collectivités locales à rentrer dans des démarches de communs numériques. Voilà, pour un peu nuancer le tableau.
Donc c'est l'Agence du numérique et c'est Société numérique, ça?
Voilà, c'est la mission Société numérique au sein de l'Agence du numérique qui met à disposition ce genre de ressources.
Oui, effectivement, toutes les agences de l'État ne sont pas à jeter, entre guillemets. Ouais, il y en a qui font un travail quand même correct. Et tu as tout à fait bien fait de le faire, de le dire. Et on rajoutera la référence sur le site de l'April dès qu'on pourra. Emmanuel, là-dessus, sur Décidim ou sur ces... Tout à l'heure, toi, tu parlais justement que tu as créé 3 entreprises. Donc, les modèles économiques, tu connais un petit peu aussi. Est-ce que tu as quelque chose à... Un commentaire à faire?
Non, sur Décidim, j'en ai pas. À part que j'avais essayé de l'installer, j'y étais pas arrivé, mais ça, c'était mon problème à moi.
Ça a changé depuis.
Non, mais c'était, ouais, c'était.
Tu avais pris une version vraiment de alpha et. Voilà.
Non, mais c'est, ouais, c'était moi qui avait. Bon, c'est très bien Décidim. Non, sur les. J'ai pas de choses en plus à dire là tout de suite.
D'accord. Tout ça, on approche de la fin de ce sujet. Alors, c'est l'occasion, avant qu'on oublie, de citer quelques sites web quand même. Donc, codefort.fr, c'est Codefort France. Avant d'oublier aussi, donc, Caroline Corbal, je crois que vous avez une assemblée générale bientôt, donc je te laisse donner les informations.
Oui, ce sera le 24 avril à 18h30 au Liberté Living Lab et vous êtes les bienvenus. On va renouveler le conseil d'administration. Le conseil d'administration.
Donc Liberté Living Lab, c'est à Paris. Est-ce qu'il y aura une diffusion ou une...
C'est une excellente question. Si le besoin se fait ressentir, on pourra avoir une vidéoconférence et tout sera documenté sur des pads. Et vous pouvez aussi rejoindre notre chat où tout se passe. C'est chat.codefort.fr.
Donc voilà, vous allez sur chat.codefort.fr, vous pourrez rejoindre ce projet et on mettra la référence sur le site de l'April. Bon, je crois qu'on a fait une bonne partie de l'émission, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Donc sur ce sujet entre Civic Tech, Civic Business, est-ce que vous avez des annonces à faire par rapport à ça, au-delà de l'Assemblée Générale de Codefort France
Non, moi ce que je voudrais juste dire, c'est si pour les auditeurs qui sont tech ou pas tech, mais enfin, qui veulent un peu, qui s'intéressent vraiment à la démocratie numérique, donc rappeler qu'il y a une association qui travaille beaucoup sur ce sujet, une association principalement d'informaticiens, mais pas que, qui s'appelle Regard Citoyen, qu'on cite sans doute régulièrement ici. Voilà, et donc celle-là, grâce à elle, maintenant, l'Assemblée nationale et le Sénat publient en open data énormément de données, mais c'est grâce à Regard Citoyen. Donc je vous conseille d'aller sur Regard Citoyen. Je vous conseille aussi, alors, parce que pour améliorer la démocratie, il faut la comprendre. Et je me suis rendu compte par ma petite carrière, que finalement, on ne sait pas du tout comment fonctionne ni l'administration française, ni le Parlement. Et donc, il y a une initiative que j'aime bien. Bon, j'en suis un peu à l'origine, mais qui continue sans moi, qui est le Parlement ouvert de la députée Paula Forteza. Donc, si vous voulez savoir un peu comment fonctionne l'Assemblée, allez à toutes les semaines au bureau ouvert. Au bureau ouvert. Non, le site, c'est parlementouvert.fr. Et l'initiative, c'est bureau ouvert. Voilà. Et c'est comme ça, c'est en apprenant comment ça fonctionne réellement qu'on pourra améliorer les choses. Parce que un des reproches qu'on peut faire au Civic Tech en général, c'est que souvent les logiciels n'ont pas d'utilisateurs et n'ont pas notamment les politiques comme utilisateurs. Et qu'il faut absolument se greffer à eux si on veut essayer de changer les choses.
Exactement. Et comme tu parles de Parlement ouvert, j'en profite pour signaler que Marie-Odile Morandi, qui est bénévole à l'April, qui s'occupe des transcriptions, a utilisé ce site l'an dernier pour suggérer des questions au gouvernement, que 3 de ces questions ont été relayées, dont site proposé par Paula Forteza et Mathieu Orphelin, et les 3 ont reçu des réponses. Donc c'est une façon aussi de s'impliquer via des sites participatifs.
Et site monté avec un logiciel libre islandais, que nous avions réutilisé pour l'occasion.
Et qui s'appelle comment ce...
Je viens d'oublier son nom, mais je vais le retrouver. C'est moi qui l'avais installé, donc je devrais le retrouver.
Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à vous. On mettra la référence sur le site, sur le nom de ce site islandais, évidemment, sur le site de l'April. Donc, l'Assemblée générale de Codefort France, donc le 24 avril, au Living Liberty Lab à Paris. Living Liberty Lab à Paris. Et s'il y a besoin d'une retransmission, ben, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. En tout cas, il y aura les comptes rendus qui seront publiés et puis tout est sur le site également. Donc nous allons maintenant, je remercie bien sûr Emmanuel Ravière et Caroline Corbal, mais vous restez évidemment avec nous pour la chronique qui va suivre.
Merci.
Nous allons d'abord faire une petite pause musicale. Nous allons écouter When the Devil's Got Your Name par The Damned and Dirty.
Cause commune.
Every morning before the rooster crows, I hear a knock, knock, knocking on my bedroom door. It ain't easy when a man, he knows your name. When the devil comes calling, with a heart full of soul, I got a Hellcat squeeze dripping jelly roll. I'm all aboard with man, he gonna take you down. The devil come calling, ain't nobody else around. Every morning for the break of day, outside my window pane. Now it ain't easy when the devil's got your name. The man come calling, he just won't go away. And a bag of cash, it ain't easy when the man's got your name. You're going down, down to him, it's all the same.
Nous venons d'écouter The Devil's Got Your Name par The Damned and Dirty, donc c'est en licence Creative Commons, partage l'identique et la référence est évidemment sur le site de l'April. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, j'ai trop de mémoire. Libre à vous donc, et nous allons terminer par le dernier sujet avec la chronique donc de Vincent Calam, ça doit être ta troisième chronique Vincent, oui. Intitulée donc Jouons collectif. Alors je rappelle que Vincent, tu es informaticien et bénévole à l'April, et que tu, dans le cadre de ton travail, tu as un échange avec pas mal de collectifs, et donc tu viens un peu nous raconter tes expériences, en tout cas tes réflexions là-dessus. Et aujourd'hui le thème du jour est, en fait, c'est simple. Alors... Oui. Quand tu m'as envoyé ça, je me suis dit, de quoi veux-tu parler ?
Alors, en fait, l'idée de cette chronique m'est venue à la fin de ma chronique précédente, quand je suis allé voir notre ami Étienne, qui était alors en régie. Et donc, quand on va en régie, on voit une console avec plein de boutons. Enfin, on a l'impression qu'on est devant une station et un poste de pilotage d'avion. Et là, il me dit, mais non, pas de problème. En fait, c'est simple. Il y a juste à appuyer au bon endroit. Et ça, cette phrase, en fait, c'est simple, j'entends souvent, notamment, j'ai entendu aussi, juste peu de temps après, quand j'ai expliqué une commande à une collègue qui m'a dit, mais en fait, c'est simple. Et donc, c'est quelque chose qui revient très souvent après avoir expliqué une commande, une fonction, la personne réagit en disant, mais en fait, c'est simple.
J'ai toujours cru que l'informatique, en fait, c'était compliqué, mais finalement, tu me dis qu'en fait, l'informatique, c'est simple, c'est ça?
En fait, je pense que c'est un assemblage complexe de choses très simples. C'est, après tout, l'informatique, c'est des 0 et des 1, donc on ne peut pas faire plus simple que des 0 et des 1, mais c'est assez complexe. Et ce qui est complexe, c'est surtout c'est que c'est intimidant, parce que il y a beaucoup de possibilités quand on est face à un logiciel. Il y a des boutons, il y a des commandes partout, on ne sait pas où cliquer. Mais souvent, une fois qu'on sait où cliquer, ça devient d'une simplicité biblique, disons-nous.
Alors, l'expérience de la régie pourrait le laisser penser, mais en fait, le problème des fois, c'est qu'on a appris à cliquer, on s'est dit « Ah, c'est simple », et puis le temps passe, et on oublie. Parce que c'est un des problèmes, non ?
Oui, ça, c'est le gros problème de l'informatique que j'ai remarqué, c'est que ça s'oublie très, très vite. Dès qu'on ne pratique pas, ça s'oublie. Je dirais, alors ça, c'est une hypothèse très personnelle, je pense que, comme l'informatique, normalement, c'est sur un écran, il n'y a que la mémoire visuelle qui est en action, il n'y a pas du tout de mémoire du geste, et ce qui fait que, finalement, on perd très vite nos repères, alors que, comme Maurice Chevalier chantait en disant « marche au pas, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas », mais je crois que l'informatique, comme on ne sollicite pas vraiment notre corps, ça s'oublie très rapidement.
Oui, parce qu'il n'y a pas les mémoires du geste, etc. Par contre, Vincent, je suis un peu désolé, là, tu viens de citer Maurice Chevalier, je connais tes capacités vocales, je pense que ta prochaine chronique, tu devras nous chanter du Maurice Chevalier ou du Boris Vian, parce que je sais que tu maîtrises comme ça. Alors, là, il rougit parce qu'il n'avait pas prévu que je fasse ça, mais voilà. Et donc, comme un sport qui doit être pratiqué régulièrement, ou en tout cas pour la mémoire des gestes, toi, tu dis, en fait, ton sentiment, c'est que l'informatique doit être pratiquée régulièrement.
Oui, mais alors la difficulté, c'est que ça va être pratiqué régulièrement, parce qu'en fait, une interface simple, c'est quoi ? C'est une interface qui vous est familière. C'est comme un site web aussi, hein. Je veux dire, les sites web, ils paraissent plus ou moins compliqués. C'est certain qu'on fréquente couramment, ben, ils nous apparaissent simples, mais en fait, c'est familier. La petite difficulté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonctions qu'on utilise pas souvent. Même dans un logiciel qu'on utilise quotidiennement, il y a des fonctions avancées, notamment, qu'on utilise qu'une fois par mois. Et là aussi, on va très vite comment faire. Je crois qu'il y a deux choses. Finalement, il ne faut pas se focaliser sur la fonction exacte, mais il faut, un, ne pas oublier son existence. C'est-à-dire de se dire, ah oui, mais avec ce logiciel, je suis capable de faire ça. Alors comment ? J'ai oublié, mais je sais que je suis capable de le faire. Et ensuite, savoir comment retrouver cette information du fait que cette fonction existe.
Donc peut-être l'importance des fois de documenter ces fonctions qu'on utilise peu souvent, voire même de toujours documenter tout ce qu'on fait. Moi, j'ai l'habitude de documenter maximum quand j'installe des logiciels. Je pense que je ferai réagir tout à l'heure Emmanuel Ravière qui me fait un signe de la tête. Non, oui, ah si, si, si.
Chaque fois que j'installe un logiciel, je documente toujours, je garde l'historique complet pour pouvoir le refaire et ça me sert tout le temps. Donc
voilà. Tu confirmes. Pour revenir au titre de la chronique, donc en fait c'est simple, mais finalement, imaginons une formation, est-ce que c'est la personne qui donne la formation qui doit dire cette phrase à la personne qui l'accueille ?
Ça, effectivement, ça, c'est le piège, c'est que quand on forme, on est devant la personne, et quand on dit à une personne, tu vas voir, c'est simple, et puis on clique trois fois très rapidement, c'est pas très pédagogique, et là aussi, on va... En fait, on place en plus, on intimide encore plus la personne en lui disant que c'est simple. Donc, si elle ne comprend pas, elle va culpabiliser en pensant que c'est de sa faute. Donc, c'est important que le « en fait, c'est simple » doit être la conclusion d'une formation. C'est quand l'étudiant, voilà, l'étudiant, enfin la personne qui est apprenante, se rend compte de finalement, oui, c'était simple une fois qu'on sait. L'informatique, c'est beaucoup l'œuf de Colomb. C'est simple, mais il suffisait d'y penser. Il fallait y penser, c'est un peu ça. Une fois qu'on sait, ça nous paraît assez évident.
Et donc là, tu expliques que finalement, c'est simple pour la personne qui a appris ou la personne qui utilise, mais nous, on est dans une émission où c'est le partage, logiciel libre, les données, on partage. Est-ce que l'étape d'après, c'est pas de partager ces fameux, ces petits trucs et astuces, ces petites notes dont parlait Emmanuel Ravière il y a l'instant
Si, complètement. Je pense que vous pouvez vous dire que quand vous trouvez qu'un logiciel est simple, c'est pas parce qu'il est simple, c'est parce que vous le maîtrisez. Non, j'ai cette remarque, c'est des gens qui ne se rendent pas compte même de leurs propres compétences, d'ailleurs, en informatique. Ils disent, en fait, c'est très simple, oui, mais En fait, c'est très simple parce que tu sais utiliser le logiciel de manière efficace. Il te fait réellement gagner du temps, parce que le but des logiciels, c'est quand même ça. Et tous ne font pas de gagner du temps. Donc, si tu sais bien l'utiliser, tu le maîtrises bien, ça te paraît simple. Et à ce moment-là, je pense que l'étape d'après, qu'on en apprécie, c'est de rendre un peu à la communauté ce qu'elle vous apporte, et notamment en aidant les autres, les débutants, en les aidant à maîtriser ce logiciel pour que ça fasse boule de neige. Et donc là, il y a plusieurs techniques. C'est souvent participer à des forums. Les gros logiciels ont des forums d'aide aux utilisateurs, donc c'est un bon moyen d'aider des gens à maîtriser un logiciel et de partager votre connaissance, sachant qu'en plus ces forums sont archivés, donc il y a des chances que des personnes recherchant via un moteur de recherche trouvent vos réponses. Et puis une autre piste, c'est d'ouvrir d'un style billet de blog où vous mettez justement vos découvertes. Par exemple, vous découvrez une fonction que vous n'aviez jamais découvert sur un logiciel, et ça peut être un bon moyen de le partager. Ce sera peut-être vu par 5 personnes par mois, c'est pas grave. La ressource existe et les moteurs de recherche vont la retrouver, et vous pourrez, sans le savoir, vous n'aurez peut-être pas de retour, mais vous pourrez rendre service à quelqu'un qui cherchait depuis des heures la fonction que vous maîtrisez parfaitement et qui vous prend qu'une minute à faire. Et voilà, je rajoute, on parle beaucoup de contributions dans le cadre du logiciel libre. C'est un bon exemple, ce type de contribution est un bon exemple qu'on peut contribuer de manière très efficace en logiciel libre sans taper une ligne de code. C'est justement en partageant son savoir et ses astuces et son savoir-faire.
Tout à fait. Est-ce que Caroline ou Emmanuel voulaient réagir là-dessus ou non ? Ça vous...
Non, c'est parfait.
C'est parfait.
Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire dès que vous écrivez une petite doc, la mettre en ligne. Alors moi, j'utilise plutôt Guide pour mettre en ligne, mais c'est le même principe.
Chacun sa méthode de mise en ligne. Effectivement, ouais. La tienne est un peu plus geek, on va dire. Mais en tout cas, on trouve aussi de l'information. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous ici été confrontés à ce cas-là où on cherche un truc, une solution, un conseil. Et on le trouve sur Internet, des fois sur un forum, des fois sur un site web, des fois sur Git. Donc, on vous encourage, en tout cas Vincent vous encourage à partager vos trucs, astuces, vos documentations. Et c'est simple à faire et ça peut sauver, pas la vie, mais en tout cas, ça peut aider d'autres personnes sur Internet.
Oui, parce que du fait des moteurs de recherche, si vous mettez les bons mots dans votre titre, il y a des chances, la personne, quand elle va taper, elle va trouver votre site, parce que vous dites comment mettre en gras tel cadre. Et, soyez assez précis et les moteurs vous trouveront.
Eh bien, écoute, merci pour cette chronique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Non.
Non ? Donc, pour la prochaine émission, tu sais ce qui t'attend, donc ça se trouve, il va plus vouloir venir. Mais, non, je précise que... Alors, j'en profite quand même pour remercier grandement Vincent, parce que Vincent occupe beaucoup de... Enfin, s'occupe en partie de l'accueil des associations libristes à la FPH dans le 11e, et je le remercie d'autant plus que nous étions ce week-end donc à la FPH ce dimanche pour un April Camp. C'est-à-dire un April Camp, c'est une réunion de membres de l'April ou de soutien, donc c'était ouvert à toute personne. Et grâce à Vincent et à la FPH, on peut avoir un lieu absolument incroyable, accessible pour toute personne. Alors, on me montre un petit papier, donc je ne sais pas.
FPH. Évitez les acronymes.
Alors, bon, c'est Fondation pour le Progrès de l'Homme. Homme avec un grand H. Enfin, c'est la Fondation Charles Léopold Meyer pour le Progrès de l'Homme. Donc, c'est dans le 11e arrondissement. Donc, je tenais à le remercier. Voilà, outre ça, il est d'une gentillesse incroyable et il a une voix magnifique. Notamment quand il chante du Boris Vian. Voilà, nous sommes fans tous les deux de Boris Vian. Alors, nous allons passer aux annonces diverses et variées. Donc, je regarde l'heure. Donc, je rappelle que la radio a une boîte vocale. Vous pouvez appeler donc le 01 88 32 54 33. Et je répète, 01 88 32 54 33. Et vous pouvez laisser un message d'une durée maximum de 10 minutes et ce message passera à l'antenne à un moment que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc dans les annonces, on vient de parler, donc, enfin début d'émission, on a parlé malheureusement du vote au Parlement européen sur la directive droit d'auteur et l'article 13. Les mobilisations ne sont pas finies parce qu'il y a une autre campagne en cours qui concerne la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Et ce n'est pas une blague, mais le vote aura lieu, donc c'est en commission des libertés publiques le 1er avril. Donc là, vous allez sur le site de la Quadrature du Net, donc laquadrature.net, et vous aurez toutes les informations pour vous mobiliser sur cet autre texte qui met en danger les libertés fondamentales. Du côté plutôt positif, le libre en fait se poursuit. Vous savez, les événements partout en France pour sensibiliser autour du logiciel libre. Donc c'est jusqu'au 7 avril. Le site, c'est libre-en-fait.net. On parlait de la FPH à l'instant. Donc il y a la soirée de contribution au libre hebdomadaire. Donc jeudi soir 28 mars à partir de 19h, si je me souviens bien. 19h30, voilà, donc tu vois, je me souvenais mal. La Fondation pour le logiciel libre, donc la Free Software Foundation, a remis ses awards, donc ses prix en fait annuels, ce week-end. Donc le OpenStreetMap a reçu le prix pour le projet pour un bénéfice social. Alors ça me fait penser, OpenStreetMap, nous recevrons justement des gens d'OpenStreetMap, donc sans doute courant avril ou peut-être mai, donc pour présenter ce projet magnifique de cartographie libre. Et une deuxième personne a reçu donc un prix, il s'agit de Deborah Nicholson, donc c'est le prix pour l'avancement du logiciel libre. Deborah Nicholson est impliquée dans de nombreux projets de logiciel libre depuis une dizaine d'années, dont notamment le projet Software Freedom Conservancy. Alors, je ne sais pas comment on le traduirait en anglais, mais c'est un projet qui accueille d'autres projets logiciels libres pour leur fournir une base de soutien légal, financière, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, donc Software Freedom Conservancy. Donc Deborah Nicholson et OpenStreetMap ont reçu ce prix qui est remis chaque année donc, par la Fondation pour le logiciel libre dans leur événement annuel à Boston aux États-Unis. On entend le générique qui part en mode de tapis, donc je vérifie si j'ai d'autres annonces. Eh bien non, a priori non. Et puis si vous cherchez des événements sur Libris, vous allez sur évidemment le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, et vous retrouverez tous les événements. Donc notre émission se termine. Je vais remercier évidemment chaleureusement Patrick Creusot en régie, Étienne Gonu qui passait du côté de la régie à côté de Patrick, Emmanuel Raviard dont j'ai révélé malheureusement le petit nom. Merci Emmanuel. Caroline Corbal, merci Caroline. Vincent Calam qu'on retrouvera le mois prochain. Alors vous retrouverez sur le site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles. Ainsi que sur le site de la radio, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Donc la prochaine émission aura lieu mardi 2 avril à 15h30. Notre sujet principal portera sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre avec trois personnes invitées. Alors de mémoire, Magali Garnero pour Parinux, donc le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de Paris, Didier Clermonté pour l'INES, c'est un groupe qui est situé en Essonne, et nous aurons Romain Volpi, si je me souviens bien, qui lui est à l'ALDIL, qui est l'association du développement de l'informatique libre dans la région lyonnaise, et qui le week-end qui suit fait une journée, enfin un week-end de conférences et d'événements autour du logiciel libre. Donc c'est la semaine prochaine, mardi 2 avril à 15h30, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée, on se retrouve mardi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.